Et nous allons passer une nouvelle semaine destination à la découverte d'un des lieux culturels du Limousin. Nous sommes à Limoges, installés rue des Coopérateurs précisément, au sein du Théâtre de l'Union que nous allons découvrir tout au long de la semaine, en partie avec Angélique Donny, chargée de communication pour le théâtre ici à Limoges. Et puis nous irons en cours de semaine du côté de Saint-Priest-Orion où le Théâtre de l'Union possède également un site. On va en parler dans quelques instants. Angélique, pour commencer, on va présenter ce lieu. On dit théâtre, donc certains n'imaginent pas forcément tout ce qui se cache derrière les portes du Théâtre de l'Union. En tous les cas, l'histoire, elle remonte à déjà de nombreuses années.
Alors oui, Théâtre de l'Union, déjà le nom, il date de 1881. Donc on est situé rue des Coopérateurs à Limoges et ce sont en fait des ouvriers porcelainiers qui se sont réunis en 1881 et qui ont créé une fondation, l'Union de Limoges. Au début, une centaine d'adhérents à cette fondation et puis les années passent et il y a 15 000 familles qui à un moment donné ont adhéré à cette fondation et la nécessité a été de se retrouver dans un lieu. Donc en 1911, l'Union de Limoges est née ici rue des Coopérateurs. Donc ces ouvriers ont créé une salle qui avait une plus grande capacité d'accueil à l'époque. Cette salle, elle était assez révolutionnaire à l'époque parce que l'architecte a choisi le béton armé, ce qui était à l'époque une nouveauté. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la façade, on a une façade avec des pierres de taille et puis en bas du granit. Donc on est bien dans le Limousin quand même.
Aujourd'hui, c'est ce qui fait le charme, la force du Théâtre de l'Union, c'est d'avoir gardé cette trace d'histoire finalement.
Il y a une vraie force et il y a une âme dans ce lieu. Donc c'est un lieu qui était au départ une salle des fêtes et puis après en 1930, c'est devenu le premier cinéma dans la ville de Limoges. Donc c'est devenu le Théâtre de l'Union vraiment un lieu culturel emblématique. Donc le premier cinéma dans les années 30, ensuite dans les années 70, ce lieu a été abandonné. Complètement abandonné. Et c'est la ville de Limoges qui a racheté le bâtiment et qui l'a réhabilité en théâtre. Donc elle l'a racheté en 1986 et le lieu a été inauguré en 1989 par Bernard Fèvre d'Arcier qui représentait donc Monsieur Lang pour le ministère de la Culture. Et donc en 1989, le lieu a été ouvert sous le nom de La Limousine par Arlette Tefany et Pierre Méran avec un label particulier. C'est un centre dramatique nationale. Donc on est 35 CDN, on appelle ça les CDN, centres dramatiques nationaux. On est 35 en France, donc il y a un centre dramatique aussi à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, à Montreuil, à Strasbourg, enfin voilà, dans les grandes villes françaises.
Alors on va parler tout au long de la semaine de ce lieu, on va détailler, hein, on ira se glisser un petit peu en coulisses, voir un petit peu comment on travaille au sein de ces équipes. L'équipe justement, un petit mot, combien de personnes au Théâtre de l'Union quotidiennement ?
Alors, on est 20 salariés. L'une des particularités aussi des centres dramatiques nationaux, justement par rapport au nombre de salariés, c'est aussi de préserver un savoir-faire théâtral. Donc, ce qui fait que ici, au Théâtre de l'Union, on a des ateliers décors, on a des ateliers costumes. Donc, il y a ce savoir-faire artisanal. Ça fait partie de nos missions de sauvegarder ces savoir-faire. Mais aussi, avant tout, on est un lieu de production et de création de spectacles. En ce moment, on accueille une compagnie en résidence, donc l'outil de travail est mis à la disposition d'un metteur en scène et ce metteur en scène va utiliser par rapport à son projet nos ateliers décors, nos ateliers costumes et va répéter sur scène son spectacle. Et toute l'équipe du Théâtre de l'Union est là pour accompagner la création de ce spectacle.
Et c'est vrai que c'est un fonctionnement particulier du coup parce que c'est beaucoup de travail, de répétition en amont. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne peut pas proposer de spectacle dans la salle, donc c'est une organisation très particulière.
Tout à fait, oui, on est sur un mode de production. Alors, c'est différent de l'opéra, parce que l'opéra, c'est encore beaucoup plus en amont pour monter les productions. Actuellement, on est en février, on travaille bien sûr déjà sur les préparatifs de la prochaine saison. Donc, on est sur des rythmes. Oui, le public ne se rend pas compte tout à fait exactement de l'activité qu'il y a dans les coulisses. Là, effectivement, le théâtre, l'accueil est fermé aujourd'hui. bruit, mais dans la salle, il se passe des choses.
Ça ne chôme pas, effectivement. Il y a combien de spectacles, grosso modo, qui passent par le Théâtre de l'Union chaque année?
Alors, il y a une trentaine de titres chaque saison qui sont programmés. Après, on est sur des rythmes particuliers. Là encore, c'est spécifique aux centres dramatiques nationaux. On joue les spectacles sur des séries, donc de 3, 4, 5, 10 représentations. Ça permet d'avoir un public varié et de ne pas fonctionner uniquement avec un public d'abonnés. Ce qui fait que si vous venez au Théâtre de l'Union, vous pouvez vous abonner en cours de saison. Vous pouvez venir prendre un spectacle juste à la carte, un spectacle. Il nous reste des places. On n'est pas un théâtre qui affiche complet dès que le lancement de la campagne d'abonnement est fini. Il nous reste des places. Donc ça, pour nous, c'est important. Ça nous permet aussi d'élargir le public, de faire savoir ce qui se passe et bien sûr aux auditeurs d'Ambazac de venir à Limoges.
Évidemment, et justement ce public qui vient ici, il est assez éclectique finalement, c'est pas que des initiés, il y a aussi des gens curieux.
Ça, heureusement, oui, je dirais qu'on a la chance d'avoir des spectateurs qui nous font confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la programmation théâtrale, on a une trentaine de titres, on a des pièces classiques et on a des pièces contemporaines. Et on arrive avec cette confiance qui est là depuis très longtemps à amener des gens vers des auteurs qui ne connaissent pas, vers des metteurs en scène qui ne connaissent pas. On n'a pas toujours de tête d'affiche non plus dans les distributions. Donc on a bien sûr, voilà, ce qu'on appelle nous des grosses locomotives ou voilà des figures qui viennent jouer au théâtre, et on en a besoin. Là, Pierre Richard est venu en janvier, mais tout le monde était très content de voir Pierre Richard, ça nous a fait du bien à tous.
Donc chargé de com, ça fait moins de travail pour faire la promotion, les gens viennent peut-être un peu plus facilement?
Alors ils viennent plus facilement, mais ça fait plus de travail puisque du coup il y a plus de sollicitations des médias, mais j'en suis ravie. Je connais quelqu'un qui est venu qui m'a dit: oh là là, mais je vais revenir, parce que le théâtre, c'est quoi? C'est quelqu'un, un metteur en scène, un auteur qui nous raconte une histoire, et les spectateurs, ils sont rassemblés en communauté, et à un moment donné on écoute tous cette histoire, et il y a toujours des émotions qui passent. Et même si parfois ça peut arriver, bien sûr on est déçus, nous on prend des risques, on programme des spectacles qui n'ont pas été créés, donc on ne l'a pas vu, on fait des paris sur des compagnies artistiques, donc parfois ça nous arrive de voilà d'être un peu déçus, on prend des risques, mais le public nous suit, donc on a une grande chance là-dessus à Limoges.
Et puis pour terminer sur les différentes missions et ce que propose notamment le Théâtre de l'Union, il y a l'Académie qu'on va découvrir plus en détail en s'y rendant jeudi, puisqu'elle est du côté de Saint-Priest-Orion, parce qu'il y a la création de spectacles, mais qui dit spectacle dit comédien, et il faut former ces comédiens.
Oui, donc on a une école supérieure professionnelle de théâtre en Limousin qui forme ces jeunes comédiens, et l'idée c'était que ces comédiens en apprentissage fassent partie des distributions des spectacles créés au sein du Théâtre de l'Union. Donc le lien, la passerelle, elle est évidente, et c'est vrai que on a un peu la boucle est bouclée. On peut créer les décors, les costumes, on forme les comédiens, on crée les spectacles, on les produit, on les diffuse. Donc oui, on a toutes les palettes du théâtre réunies en ce lieu.
Et c'est notre deuxième rendez-vous de cette semaine consacrée au Théâtre de l'Union, où nous sommes installés ici à Limoges. Nous sommes toujours en compagnie d'Angélique Donny, la chargée de communication, qui nous fait visiter les lieux. On a parlé de l'histoire de ce Théâtre de l'Union dans le rendez-vous d'hier. Et là, nous sommes passés, chose promise, chose due, côté coulisses. Alors, on est sur la scène, caché derrière un rideau en l'occurrence, pour parler justement de cet aspect technique de ce côté salle, scène. Et on l'a dit, la salle était au départ une salle des fêtes, donc elle a subi beaucoup d'aménagements.
Donc c'est vrai qu'au départ, c'était pas un théâtre, donc ce qui fait qu'on a une cage de scène qui est très spécifique. Dans les théâtres modernes, il y a la possibilité de monter les décors dans les cintres, il y a des dessous de scène aussi. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Après, ça ne nous empêche pas d'accueillir des grosses productions, des petites productions, on s'adapte très bien. Donc Claire, régisseur général et régisseur lumière, Claire Debarre Capdevielle. Donc son travail, c'est aussi tout l'accueil des compagnies. Donc on accueille des spectacles qui ont déjà été créés dans d'autres lieux. Donc là aussi, c'est beaucoup de travail en amont. Il faut avoir les fiches techniques de ces spectacles, savoir combien de personnes vont être mobilisées pour le montage du décor, faire des implantations lumière en amont, préparer la venue de ces compagnies. Donc ça, c'est le travail de Claire de coordonner tout ça. Je lui laisse la parole.
Ah, qui va nous expliquer, oui, effectivement quel est ce travail. Donc différent finalement quand on crée quelque chose ici ou quand on accueille quelque chose de déjà monté.
Oui, ça n'a rien à voir. Mais surtout, je suis jamais seule. Hein. Mm. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Donc quand on accueille une compagnie qui a déjà travaillé, nous, on va les aider en fait à adapter à notre lieu, ce qui est effectivement un peu compliqué. Bon, on n'a pas l'image, mais avant, la Seine, c'était juste derrière cette arche. Elle faisait 4 mètres de profondeur par 5 mètres d'ouverture. Maintenant, on a 11 mètres de profondeur et 15 mètres d'ouverture, ce qui change tout.
On a réduit la salle et on a augmenté la Seine.
Exactement. Mais par contre, effectivement, on n'a pas beaucoup de hauteur. Donc, on ne peut pas faire comme un théâtre à l'italienne ou comme à l'opéra. On ne peut pas échapper des décors. On ne peut pas cacher. On ne peut pas faire des apparitions par le sol. Donc, faut adapter. Et quand les gens sont en création ici, c'est pareil. Ils créent avec ces contraintes-là. Sachant qu'ailleurs, ils vont peut-être trouver d'autres conditions, mais si la base, c'est ça, il va falloir qu'ils retrouvent ça. Ceci dit, retrouver 11 mètres de profondeur, c'est pas non plus commun. Donc, nous, notre boulot, ça va être d'adapter. On va accueillir bientôt un spectacle. C'est énorme. C'est énorme. Ça rentre pas, hein. Dans la vraie vie, sur les plans, ça ne rentre pas. Ouais. Mais on va le faire rentrer. On va pousser les murs, je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. Et voilà, l'idée, c'est de toujours faire au mieux pour que le spectateur ne se rende pas compte qu'on a changé la disposition de la cage de scène, de la scène, et que le spectacle, il passe, il marche, et que le metteur en scène soit content de l'adaptation qu'il fait ici. Le public, il voit un vrai spectacle qui n'est peut-être pas le même qu'à la création. Mais qui, bon an, mal an, va donner le même résultat et le même plaisir de regarder. Voilà. Et là, comme on est en création, on cherche. Et on va chercher comme ça pendant 15 jours.
Puis on trouve toujours des solutions.
On va trouver, je pense que 3 heures avant de jouer, on aura fini de trouver.
Voilà. Tout sera prêt dans les starting blocks, soyez rassurés. Il y a ce côté chaleureux, on l'a dit, on a réduit la salle, on a rallongé la scène, donc on est sur des choses assez équilibrées, c'est ce qu'on disait également hors antenne, entre le public, les acteurs sur scène, on a l'impression d'être un peu au même niveau les uns et les autres.
Oui, c'est un des handicaps de la salle, c'est qu'on a une scène surélevée de 1m10 et du coup ça donne une distance avec le premier rang. Alors de temps en temps, on met le proscenium, l'avancée de scène. Là, on avait mis 4 mètres, on en a enlevé 2 ce matin parce qu'on s'est aperçu que ça marchait pas.
Il n'y avait plus de siège pour le spectateur, c'était embêtant.
C'est un métier d'adaptabilité, je ne sais pas si le mot existe, mais c'est vraiment s'adapter tout le temps, faire en sorte que ce soit le plus confortable pour les comédiens et pour les spectateurs.
Et que ce soit tout à fait transparent pour le spectateur qui vient regarder un spectacle.
Exactement. Je vais vous avoir une anecdote comme ça en passant. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais demandé à des copains de venir voir un spectacle. Et ils pensaient en fait qu'on se déplaçait avec les projecteurs, puisque la lumière bougeait. Ils pensaient qu'on était là-haut, qu'on était une petite tripotée comme ça, et qu'on se déplaçait avec les projecteurs. En fait, non, il y en a pléthore, et on les allume pas au même moment, c'est tout.
Donc voilà, ça fait partie de la magie du spectacle, comme on dit. Bon, on va vous laisser bosser, hein, parce que pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, hein, comme on dit. Donc on vous libère. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Et puis, Angélique, on va nous continuer d'évoquer ce côté coulisses. On n'a pas parlé des sièges. Ils ont une couleur verte et c'est pas banal dans le monde du théâtre.
Normalement au théâtre, la couleur verte, c'est la couleur qui est bannie du théâtre. Plusieurs légendes à cela. La plus célèbre, ce serait que Molière serait mort dans un costume vert. Donc à l'époque de Molière, les teintures des costumes étaient réalisées avec des plantes et il se serait intoxiqué avec son costume en vert. Donc à sa mort, le vert a été banni du théâtre en France, mais notre architecte qui a réhabilité ce lieu en théâtre a voulu vaincre la malédiction et a choisi la couleur verte. Donc on a un rideau de scène vert et des sièges aussi de la même couleur.
A priori, pas d'incidence.
Pas d'incidence. Toutes les équipes ont bien voulu honorer leur contrat malgré cette couleur. Donc, on a beaucoup de chance.
On va demain passer côté costume, côté décor. Évidemment, quand on va à le spectacle, ça aussi, c'est des secteurs très importants. Là, simplement, donc, on est, nous, dans le couloir dans lequel on trouve les loges également pour les artistes.
Oui, donc, on appelle cela le foyer. Donc, c'est là, en fait, où on peut voir, hein, direction la scène. Il y a un miroir. Le comédien peut regarder, voilà, si la perruque est bien en place, le costume est bien en place, il se regarde et hop, il arrive directement sur scène. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est qu'on a les loges qui sont vraiment à proximité de la scène. Après, on a des retours, donc on a un écran, et puis parfois aussi en répétition, ça dépend, on met aussi des retours au niveau du son, donc si à un moment donné, on utilise ce système-là, la metteur en scène peut appeler directement de la salle quelqu'un pour venir faire une intervention sur le plateau. Donc on a une caméra fixe en régie qui filme ce qui se passe, et si on a un comédien qui doit rentrer à l'acte 2, scène 3, il n'est pas obligé de rester à l'arrière de la scène, il peut rester ici dans le foyer des comédiens, donc on a des canapés, on a des petits gâteaux, etc. Et il peut attendre dans sa loge ou dans le foyer le moment de son entrée sur scène. Donc ça, c'est vraiment un confort aussi d'avoir la loge tout de suite à proximité, parce qu'il y a d'autres théâtres où c'est un peu plus loin et c'est toujours un peu angoissant pour le comédien d'être trop loin de la scène.
Bon ben nous, on ne va pas aller voir ce qui se passe en loge, on va laisser l'intimité des artistes, mais on va plutôt se diriger du côté des ateliers décors et des ateliers costumes. Ça va se passer dans notre rendez-vous de demain, le temps de laisser également les répétitions se faire.
Arrête avec moi. Je suis toute seule, éblouie, devant des gens que je ne connais pas. Ils attendent quelque chose de moi, je ne sais quoi, et je ne sais pas qui sont ces gens. Ils sont dans le noir, on ne voit pas leur visage.
C'est notre troisième rendez-vous de cette semaine à la découverte du Théâtre de l'Union. Nous sommes toujours installés à Limoges, rue des Coopérateurs, et toujours en compagnie d'Angélique Donny, qui est la chargée de communication du théâtre et qui nous permet d'en découvrir un petit peu plus son histoire, mais aussi ces lieux dans lesquels le public n'a pas forcément l'habitude d'aller. On était en coulisses dans le rendez-vous d'hier, et là on va passer par deux endroits indispensables, évidemment, dans le monde du spectacle, les décors tout à l'heure, et d'abord les costumes.
Les costumes, donc on a la chance d'avoir un atelier costume, donc de proposer aux compagnies qu'on accueille en résidence la possibilité d'avoir des costumes faits sur mesure. Donc on a à l'atelier Noémie Loriou qui est là avec nous, qui travaille ici de façon permanente à l'atelier, et s'il y a besoin, il y a d'autres pas les petites mains, des grandes mains qui viennent pour l'aider, parce que c'est beaucoup de travail de proposer des costumes sur mesure.
Alors justement, concrètement, Noémie, votre travail à vous ici, c'est quoi ? Donc c'est de la création pure, c'est de la retouche, c'est un peu tout ça ?
Ben, à chaque spectacle, faut s'adapter aux demandes du metteur en scène, au budget, puis au temps qui nous est imparti. Comme là, par exemple, il y avait une courte durée de création. On a d'abord opté pour chercher une robe plutôt dans le prêt-à-porter, et au final, on a opté pour une robe qu'on va créer justement dans les ateliers costumes. Donc, c'est là où après, faut être réactif pour justement arriver à proposer quelque chose qui soit convenable, qui corresponde aux attentes du metteur en scène, et laisser aussi le temps à la comédienne de répéter avec cette robe pour qu'elle puisse aussi se sentir bien, à l'aise, et qu'elle s'adapte.
Oui, parce que pour l'instant, elle est déjà en train de répéter. Effectivement, la robe n'est pas tout à fait prête, hein, on ne va rien cacher à nos amis. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que dans le spectacle, on va passer d'une époque à une autre, les spectacles sont tous différents, ça veut dire que vous êtes amené à faire des choses extrêmement différentes. C'est aussi ça le qui fait le sel, c'est le challenge à chaque fois ?
Oui, c'est ça. Faut s'adapter. Et puis, on en apprend aussi tous les jours, même dans notre métier, parce que chaque chose qu'on réalise est unique. Donc, voilà.
Et puis, on parle des robes, mais il y a aussi les accessoires. Il y a les perruques. C'est un ensemble, hein, évidemment. Quand on parle de costume, c'est un terme très générique.
Oui, c'est ça. C'est un ensemble visuel. Après, chacun a son métier aussi. Il va y avoir les perruquiers, les maquilleurs et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a l'occasion de travailler avec ces gens-là au plus près, et du coup c'est chouette.
Une belle aventure. Bon, on vous retarde pas parce que visiblement il y a un petit peu de boulot sur la robe. Je voudrais pas que vous ayez des problèmes avec la comédienne. Merci d'avoir été avec nous en tous les cas, et bon courage.
Merci.
Et puis en ce qui nous concerne, Angélique, on va continuer la balade.
On va aller faire un tour à la réserve des costumes. On a une très belle réserve. On va sur la passerelle.
Ah, donc effectivement on change de bâtiment, on traverse une petite passerelle par l'extérieur. Effectivement, nous arrivons dans une penderie qui ferait rêver bien des femmes.
Pas que les femmes, hein, je crois, les hommes aussi et surtout les enfants. Donc on est dans un lieu où il y a 4000 costumes. des costumes d'époque, des costumes contemporains qui sont classés d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, les chemises, les pantalons. Donc ici, on n'a qu'un échantillon de tous les costumes qui ont été réalisés, puisque ici, il y a uniquement les costumes des productions maison du Théâtre de l'Union, avec les différentes directions qui se sont succédées. Arlette et Fanny Pierre-Mérand, Sylvie Pourcarette, Pierre Pradinas, et aujourd'hui, donc, c'est Jean Lamberville qui dirige le Théâtre de l'Union. Donc, ce qui fait que là, c'est uniquement les productions maison, ce qui fait que pour les compagnies qu'on a accueillies en résidence, elles partent avec leurs costumes, elles partent avec leurs décors, ça leur appartient. C'est notre rapport en nature par rapport à la production de leur spectacle. Mais quand les spectacles ont été créés ici par l'une des directions du Théâtre de l'Union, bah, les costumes sont stockés ici. Donc on a 4000 pièces, des pièces donc faites sur mesure, avec où on voit il y a des robes qui sont magnifiques, où tout est fait à la main dans les moindres détails. Donc c'est là où c'est vraiment aussi on s'aperçoit un métier vraiment spécifique. Les costumiers qui se sont succédés au Théâtre de l'Union, bah, à chaque fois ils respectent les époques. Donc c'est-à-dire si la fermeture éclair n'a pas été inventée à l'époque où se passe la pièce, bah, il n'y a pas de fermeture éclair, il va y avoir des boutons. Donc c'est tout est fait dans le détail, on ne s'en rend pas forcément compte parce que quand on est spectateur, on est toujours à une dizaine de mètres du comédien qu'on a installé dans nos sièges. Mais quand on regarde en détail, là, sous nos yeux, les costumes, ben, on voit que c'est vraiment fait avec amour, et c'est un vrai métier. Et c'est important aussi pour le comédien parce que quand il est sur scène, ben, aussi, il est valorisé avec ce costume fait pour lui dans les règles de l'art. Donc on a tous ces costumes et puis on a aussi un mur de chaussures. Et puis aussi des chapeaux qui sont stockés ici. Donc voilà, c'est une réserve qui est vivante et qui fonctionne.
Voilà, c'est une partie en tout cas de l'histoire, de la mémoire du théâtre. La mauvaise nouvelle en revanche, c'est qu'il va falloir rendre la clé. J'en suis désolé, Angélique. Nous, le temps de refaire quelques mètres, on va descendre, on va changer de bâtiment hein, pour être clair, puisqu'on va passer côté décor.
Alors on va juste descendre, mais on va quand même changer de bâtiment effectivement.
Allez, encore un petit peu de marche. On peut profiter le temps de cette petite balade pour parler de ces costumes qui sont aussi exposés dans les couloirs.
C'est aussi, oui, l'occasion de montrer les différents savoir-faire. C'est vrai que aujourd'hui au théâtre, on a plus souvent l'habitude de voir des costumes contemporains, mais il y a une fierté, voilà, de montrer aussi les savoir-faire ici de nos ateliers. Donc on expose les costumes et puis aussi les maquettes réalisées par les scénographes qui servent ensuite pour la réalisation des décors en grandeur nature. Donc oui, on montre comme ça les savoir-faire de nos ateliers.
Et ben voilà, cette fois-ci nous sommes arrivés au cœur de l'atelier décor avec évidemment son responsable qui va peut-être pouvoir tout nous raconter.
Donc on est avec Alain Pinochet qui est chef de l'atelier décor.
Grosse responsabilité pour vous.
Ouais, c'est certainement, oui. Et une grosse satisfaction aussi en même temps.
Alors, on a parlé de ces maquettes qui sont proposées, qu'on a pu voir sur le parcours. Alors, comment ça marche? On vous amène toujours une maquette pour que vous reproduisiez ça à taille réelle, ou est-ce qu'aujourd'hui on change un peu de méthode?
Non, la maquette reste toujours très présente parce que ça reste le meilleur moyen de visualiser ce qui va se passer sur le plateau. On travaille à une échelle justement qui fausse pas le regard. Hein. Bon, forcément, il y a de plus en plus de simulations sur ordinateur. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose.
Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de décor, il y a beaucoup de choses virtuelles. On a des écrans. C'est un peu frustrant par rapport à votre métier à vous. On est vraiment dans la construction même. Hein. Il y a l'atelier bois qui est juste à côté de nous. Ça sent la peinture à plein nez. Pour vous, il y a une évolution qui est un peu frustrante?
L'évolution, non, parce qu'en fait, finalement, on a l'impression que c'est cyclique. Parce que, je veux dire, la technologie, les images, on s'en lasse, donc on revient forcément aux fondamentaux, comme on dit.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a plusieurs pôles, il y a le côté vraiment menuiserie.
On fait tout, enfin tout ce qui concerne la construction, ça va de la maquette au plan technique, au chiffrage, et après à la réalisation, c'est-à-dire dans les ateliers, menuiserie, serrurerie, aluminium, et la peinture qui se fait dans la salle où on est ici, l'aire de montage.
Donc elle a la particularité d'être à la taille de la scène que l'on a visitée dans le courant de la semaine.
La taille, en tout cas, le décor qui vont sur le plateau, locaux peuvent se monter entièrement ici, ce qui est rare dans les ateliers maintenant. Quoi.
On sort de la réserve à costumes. Est-ce qu'on a aussi une réserve décor?
Ouais, c'est-à-dire qu'on a un lieu de stockage, mais c'est les décors qui sont exploités ou encore exploitables qui sont conservés, parce qu'on ne peut pas conserver les décors à l'éternam. Donc on est obligé de passer par la case déchetterie.
Ah, ça fait un petit peu mal au cœur.
Pas toujours. Non, c'est quelquefois agréable.
Pour faire un peu de place pour des nouveaux projets.
Pour certains, oui, parce qu'on est obligé de choisir. Et donc forcément, il y en a auxquels on est plus attaché qu'à d'autres. C'est clair.
Et après, on profite. Une fois que le décor est fait, que le spectacle est lancé, on se met dans la salle et on essaye de s'immerger comme le spectateur.
Absolument, oui. Toujours la première avec la petite angoisse, la même angoisse que les autres. Surtout quand il y a des machines, voilà.
Tout reste bien en place jusqu'à la fin du spectacle.
On craint toujours la panne, enfin bon, ou l'accident, ou des choses comme ça, quoi, forcément.
Mais tout se passe bien.
Jusqu'ici, j'ai pas à me plaindre, ouais. Non, tout se passe bien.
Alors, on ne change rien. Ouais. Et c'est déjà notre quatrième rendez-vous de cette semaine à la découverte du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National du Limousin, que nous parcourons depuis le début de la semaine. Et nous retournerons sur le site de Limoges d'ailleurs demain. Mais d'abord, nous allons faire une petite parenthèse, j'ai envie de dire bucolique, puisque nous sommes en plein cœur de la nature limousine. Nous sommes installés au Mazo à Saint-Priest-Orion pour découvrir, on en avait parlé avec Angélique Denis en début de semaine, l'Académie de l'Union, qui est un des secteurs de ce Théâtre de l'Union. Et pour nous en parler, Paul Golub, qui est avec nous, qui est responsable pédagogique du site. On explique en quelques mots ce qu'est cette académie.
L'Académie de l'Union est une école supérieure professionnelle de théâtre. Il y en a 13 en France. C'est une école sur 3 années, un cursus très intensif. On n'a qu'une promotion, mais cette promotion est à 17 élèves. Donc pendant 3 ans, ils vont être ici au Mazo à suivre des stages, des cours. Toujours autour du théâtre, parfois autour de la vidéo, la réalisation, le cinéma, mais surtout l'art du comédien. L'année scolaire, c'est de septembre jusqu'à fin août, typiquement, et avec peu de temps de vacances, on ne suit pas toujours les vacances scolaires. Il y a un travail à la fois très physique, on met beaucoup d'accent sur le travail corporel, puis le travail du texte aussi, et puis des créations propres à l'école, que ce soit des créations portées par les élèves, des projets que parfois ils écrivent eux-mêmes, ou parfois avec des metteurs en scène invités qui viennent avec des projets qui portent avec les élèves. Voilà.
On va justement parler de tout ça en détail. Là, on entend, puisqu'on est à proximité de ce qu'on appelle le plateau, c'est là où tout se passe. On est en quoi? C'est un cours, c'est un stage qui a lieu en ce moment?
Là, ils sont dans une semaine d'autonomie. C'est-à-dire, là, ils vont devoir présenter en mai des projets personnels. C'est un sujet que je leur impose. C'est-à-dire, les élèves tirent au sort un nom qui est une des grandes figures de l'histoire du spectacle du théâtre contemporain, en commençant par la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut partir des gens très célèbres comme Stanislavski, Coppo, Villard, ou des étrangers comme Grotowski, Peter Brook, etc. Et ils doivent présenter en mai un petit spectacle présentation d'une trentaine de minutes où ils présentent aux camarades et quelques invités leur vision de cette grande figure de la mise en scène, il y a aussi Piana Bausch, ou de la danse. Et c'est donc une manière d'appréhender l'histoire du théâtre, mais d'une manière très personnelle, pas du tout théorique, pas du tout universitaire, mais très personnelle. Donc là, ils sont en autonomie, c'est eux qui doivent quasiment entièrement gérer ça eux-mêmes, parfois des lumières, parfois de la vidéo, le son, etc.
Ces jeunes, justement, donc, ils font partie de ce qu'on appelle donc des séquences, qu'on appelle en promotion pour que ce soit peut-être plus parlant pour le grand public. Quels sont leurs profils? D'où ils viennent? Il y a un nombre limité sur chaque session?
Tout à fait, il y a des critères de sélection qui sont très précises. Ils doivent avoir un minimum de 18 ans, ils doivent avoir leur bac, et ils doivent avoir pratiquer le théâtre au moins un an dans un cours ou d'une manière intensive. On a 4 élèves qui ont 18 ans, par exemple, qui sortent tout juste du lycée. C'est un peu exceptionnel d'avoir des gens aussi jeunes. Les autres sont relativement jeunes aussi. L'âge maximum est maintenant de 26 ans. Il y a 2 tours d'audition, c'est 2 concours. Il y a un premier concours où ils doivent présenter 2 scènes et un petit moment d'improvisation. On a eu à peu près 300 candidats pour ce premier tour. Donc sur ces 300 personnes, on va choisir une quarantaine pour une deuxième étape qui est quasiment une semaine entière de travail de stage où on va les faire venir ici au Mazo et voir comment ils réagissent à un travail plus intensif, comment ils sont en groupe et essayer de de déceler qui, à la fois au niveau du talent, mais aussi au niveau de la personnalité, est-ce que ces gens-là vont bien s'entendre ensemble et être dans ce cadre qui est un peu isolé, il faut le dire, un tout petit peu particulier dans le milieu théâtral. C'est-à-dire, on est la seule école, à ma connaissance, qui est en milieu rural. C'est une petite bulle, là, et c'est un accélérateur du travail pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas les distractions qu'on peut avoir dans les grandes villes, tout simplement. Voilà.
Alors, ils viennent d'où, ces élèves ?
Cette fois-ci, ils sont deux qui viennent de la région, mais ils viennent de partout en France, de la Bretagne, de l'Est de la France, quelques-uns de Paris ou autour de Paris, mais pas beaucoup finalement de la région parisienne. Donc c'est vraiment des écoles comme la nôtre et les autres écoles nationales. On voilà, embrasse des élèves de la France entière. Et aussi, cette fois-ci, on a un élève qui vient de la Martinique. Donc ça, c'est une nouveauté. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé nos premiers tours d'audition dans quatre villes différentes. Limoges, Orléans, Dijon et puis Fort-de-France. Et ça, c'est une innovation de notre école. Voilà.
Alors, c'est vrai que c'est des séances sur 3 ans, on l'a dit, donc ça veut dire qu'il faut des gens motivés, parce qu'il n'est pas question, évidemment, d'abandonner en cours de route, mais quand on était 300 au départ et qu'on est, on fait partie des 16 heureux élus, en règle générale, c'est qu'on est très motivés et on lâche pas l'affaire.
Ah, complètement. Ils sont passionnés, ils rêvent de ça et ils ont la chance de pouvoir faire ça jour et nuit. C'est un moment extraordinaire pour eux et pour nous de voir. C'est un lieu magique, l'école. Antoine Vitesse disait que c'était une usine de rêve, l'école de théâtre, parce que c'est vrai que tout est encore possible.
Et qui dit école dit donc cursus et diplôme, donc on est là vraiment sur une formation professionnelle, on l'a dit.
Alors pour ceux qui n'ont pas encore leur licence, ils sont dans l'obligation de suivre aussi des cours à l'université, donc ils sortent avec 2 diplômes. Le diplôme national supérieur du comédien, ça c'est un diplôme qui est décerné par rapport à l'école même, et aussi une licence part du spectacle, parce qu'il n'y a pas ça à Limoges, mais licence pro, ça s'appelle, voilà.
Alors, on l'a dit, il y a différentes phases de travail, on fait différentes choses ici. Certains imaginent que c'est simplement apprendre du texte, jouer une scène. Non, c'est beaucoup de choses, c'est une attitude corporelle, c'est un ton de voix, il y a de nombreux secteurs qu'il faut maîtriser.
En effet, on pense avec notre corps entier. C'est pas que le cerveau. On a tendance, parfois, ayant suivi des cursus au lycée, puis à l'université, c'est très théorique, souvent, l'enseignement. Nous, on doit mettre ça en jeu très vite, que c'est autre chose. C'est une intelligence sensible. Il faut avoir une intelligence critique. Mais c'est l'intelligence, une intuition, l'intelligence du corps, l'engagement émotionnel et physique est primordial, bien sûr, dans nos métiers.
Et puis l'expérience humaine qui est aussi intéressante, le vivre ensemble qui est très importante et peut-être à plus forte raison dans une école comme celle-ci.
Absolument, c'est un des grands plaisirs. Parfois, c'est pas facile d'être tout le temps en groupe comme ça, mais on peut pas faire du théâtre seul. C'est pas comme la peinture ou l'écriture où il y a des moments, bien sûr, la plupart du temps, les gens le font ça seul. Non, ça se construit ensemble sur des projets, sur des rêves en commun.
Le rayonnement même de l'école, il se fait à l'international aussi.
Tout à fait. Alors, l'école a été créée en 1997 par un metteur en scène roumain qui était alors directeur du Théâtre de l'Union à l'époque. Et tout de suite, il y avait eu beaucoup d'intervenants étrangers et des voyages à l'étranger. Ceci a perduré par le prochain responsable pédagogique qui était d'origine russe. Et donc, il a ouvert tout un chantier entre la Russie et notre école. Et quand moi je suis d'origine américaine, et donc j'ai pas pu encore ouvrir des pistes avec, c'est un peu loin, même si on est allé au Canada.
Ça, c'est... Faut garder des projets pour l'avenir aussi.
Voilà, c'est ça, absolument. Donc on a toujours des projets avec la Russie, mais maintenant aussi on s'oriente à la fois vers l'Orient, avec des liens avec l'Asie, notamment le Japon, mais aussi avec un projet d'ouvrir à des élèves d'outre-mer, des dom-tom.
Alors, depuis 1997, de nombreuses séquences, de nombreuses promotions donc, qui se sont succédées ici. C'est une fierté pour vous aussi de voir un peu ce que sont devenus les élèves qui sont passés par cette école ici à Saint-Priest-Orient.
Ah, tout à fait. Et puis, une immense fierté, une immense tendresse par rapport d'accompagner ces gens à un moment tellement critique de leur vie où c'est un des endroits, je trouve, dans nos sociétés où le rêve perdure, où l'espoir perdure, et on sait que c'est pas un monde difficile, le monde du spectacle, hein, mais c'est un choix, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'amour, donc voilà, c'est extrêmement valorisant et un endroit de bonheur, je dirais.
Savais-tu que si tu regardes les petites taches blanches sur tes ongles, tu peux savoir si tu vas être chanceuse ? Si t'as une petite tache blanche sur l'ongle de ton pouce, ici, ça veut dire que tu vas avoir un cadeau. Si c'est juste une petite tâche, c'est juste un petit cadeau. Mais si c'est une grosse tâche, alors là, t'es vraiment, vraiment chanceuse comme une anguille parce que tu vas avoir un très beau gros cadeau. Cadeau ? Ami ? Ennemi ? Amour à venir ?
Et nous voilà revenus à Limoges pour ce tout dernier rendez-vous de la semaine à la découverte du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National du Limousin, installé à Limoges, rue des Coopérateurs, et que nous découvrons depuis le début de cette semaine avec la chargée de communication Angélique Dauny. On a fait une petite escale du côté de Saint-Priest-Orion hier au Mazo pour découvrir l'Académie de l'Union, cette école qui forme les comédiens et qui est ô combien importante évidemment dans l'histoire de ce Théâtre de l'Union. On va terminer la semaine, Angélique, alors tranquillou, on est installé au bar, on ne se refuse rien, mais le bar de l'Union, c'est évidemment un lieu emblématique également de ce théâtre.
Donc ce lieu, du temps des coopérateurs, c'était la bibliothèque. Donc oui, il est chargé d'une âme, comme la salle. L'architecte a réutilisé les lustres qui étaient dans la salle des fêtes. Ces lustres sont accrochés au bar et sont à l'envers. Ça crée un petit côté industriel. Voilà, donc c'est un lieu aussi où on a installé des grands fauteuils rouges. C'est assez théâtral, et puis il y a des petits objets un peu, des luminaires un peu vintage, il y a un baby-foot. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui est ouvert une heure avant le début des représentations, où on peut boire un verre, on peut manger, on a notre cordon bleu Cécile Gouga qui prépare chaque semaine des petits plats. On a une carte des vins, des boissons sans alcool, bien sûr. Donc, on peut passer un temps chaleureux avant d'aller voir le spectacle ou après. Et c'est vrai que pour nous, c'est important d'accueillir le public, non pas uniquement pour le spectacle, mais de passer une vraie soirée en amoureux ou en famille au Théâtre de l'Union. Donc, on n'est pas là que pour consommer un spectacle. On est là pour voir de l'art et aussi pour partager un moment. Et c'est vrai qu'on a aussi pour les premières, donc quand il y a un spectacle qui est créé ici, on organise des pots de première, un petit verre qu'on offre aux spectateurs. C'est l'occasion aussi d'échanger simplement avec les artistes, sans médiation, sans intermédiaire, d'aller voir le metteur en scène, le comédien, et d'aller lui dire directement notre ressenti de la pièce. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la plus belle des médiations, c'est quand ça se fait en direct sans personne. Et il faut un espace pour ça, et cet espace est dédié à ça. Après, on organise aussi d'autres rendez-vous dans ce lieu.
Par exemple, ce qu'on appelle la capitainerie des langues, là on est sur quelque chose de plus poétique.
Oui, donc c'est Jean Lamberville, donc, qui dirige le Théâtre de l'Union depuis le 1er janvier 2015, qui a créé ce rendez-vous de la capitainerie des langues. Et un scoop pour vous, ce lieu va bientôt s'appeler non plus le bar, mais la capitainerie. C'est le lieu quand on est dans un port où, par exemple, toutes les personnes qui ont un bateau, ben c'est là où ils vont pouvoir récupérer leur courrier. Donc c'est l'idée d'avoir ces différents rapports à la langue qui arrivent dans un endroit. Et c'est l'occasion d'avoir une découverte sans prétention. Déjà on entend une langue, on entend une histoire, des enjeux. Ça dure une heure, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces rendez-vous parce que ça nous change aussi des spectacles où tout est peaufiné, les costumes, les lumières, le travail du son, comme on a pu le voir tout au long de cette semaine. Tout le travail qui est fait autour d'un spectacle, là on est sur quelque chose de plus simple, un texte, un auteur, un metteur en scène, un comédien. Et c'est important aussi d'avoir ces rendez-vous qui donnent lieu parfois aussi à la création de véritables spectacles.
Et puis ces moments privilégiés, c'est aussi des rencontres, c'est des représentations publiques, des répétitions publiques qui sont proposées régulièrement aussi. C'est donner cet accès privilégié à cet univers du théâtre, du spectacle.
Oui, donc comme on est un centre de création et que les spectacles sont répétés ici, on organise régulièrement des répétitions ouvertes au public. on l'a fait là pour Richard III, c'est à un moment donné la possibilité de découvrir la cuisine, le chef, comment est-ce qu'il fait sa cuisine, quels sont les ingrédients, d'arriver à un instant où ce sera le réglage d'une entrée, par exemple. Donc un comédien doit rentrer sur scène et puis ça fonctionne pas, donc il faut trouver quelque chose. Donc une entrée à jardin, une entrée à cour, une entrée de la scène, une entrée du fond de la scène. Donc c'est là où on voit à un moment donné le comédien qui va essayer des choses, proposer des choses au metteur en scène, et c'est le metteur en scène qui va à un moment donné trancher, à dire oui, ça fonctionne ou ça fonctionne pas.
Et puis évidemment, on va pas donner la possibilité aux spectateurs de monter sur scène, de jouer la pièce, mais il y a des ateliers qui sont quand même proposés, des ateliers d'écriture, de théâtre par exemple.
Alors on a un atelier qui est ouvert au tout public, qui existe depuis des années, et c'est l'occasion de s'exercer à qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que c'est le jeu, comment placer sa voix, comment placer son corps, comment faire entendre une histoire, quelles intonations, qu'est-ce qu'on met pour créer un personnage. C'est aussi l'occasion de s'exercer.
On donnera les infos pour avoir toutes les coordonnées et tout ce planning évidemment dans quelques secondes. Parmi le public visé, il y a les enfants aussi, leur donner le goût, l'envie de venir au théâtre, et notamment au Théâtre de l'Union. C'est important, ça veut dire que vous avez des initiatives régulièrement qui leur sont destinées.
On a toujours à l'affiche un ou deux titres destinés au public famille, et c'est vrai que pour nous l'enjeu c'est d'avoir des pièces où il y a plusieurs lectures, une lecture pour les parents et une lecture pour les enfants, et d'avoir des échanges ensuite en famille sur le spectacle. Donc là, ça a été le cas dernièrement, on a présenté un spectacle qui s'appelle Ikikomori, le refuge, et là pour le coup c'était un dispositif très spécifique, puisque il y avait trois histoires racontées en un seul spectacle. Donc les spectateurs avaient un casque sur les oreilles, et dans ce casque il y avait soit l'histoire de l'enfant ou l'histoire de la mère ou l'histoire du père, ce qui fait que quand on venait en famille, on avait trois histoires différentes en un seul spectacle. Donc c'est magique aussi de voir les échanges entre les parents, ce compris aussi les enfants des spectacles. Donc on a une programmation dirigée vers le jeune public, et puis surtout vers les adolescents qui viennent régulièrement, soit en représentation scolaire ou en représentation tout public. Donc on est partenaire aussi d'un lycée, le lycée Léonard Limousin, et puis aussi d'autres établissements qu'on accompagne. On a un projet qui s'appelle Nous Tous, où on organise des matchs d'improvisation. Donc les jeunes s'essaient aussi à l'improvisation théâtrale, et c'est très joyeux comme projet.
Pour découvrir tout ça et bien plus encore, parce qu'on on est loin d'avoir tout dit évidemment tout au long de la semaine, le plus simple c'est d'aller faire un tour sur le site internet. Il y a des photos par exemple de ce qu'était ce bâtiment il y a des années. Le site c'est théâtre-union.fr, sinon un petit coup de téléphone évidemment au 05 55 79 74 79. Pour terminer, Angélique Denis, pour tous ceux qui n'ont jamais encore poussé la porte du Théâtre de l'Union, qu'est-ce que l'on peut leur dire pour les inciter à faire ce pas-là ?
Alors, je vais citer notre devise, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, c'était la devise des coopérateurs, c'est devenu la devise du Théâtre de l'Union. Nous sommes un lieu qui est de démocratisation de la culture. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire venir le plus grand nombre de spectateurs ici dans ce lieu.